Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info.
Ah,
bah, mais, je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. C'est une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débarquer ton permis, contre l'alcoolémie et ton fléchis. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une tâche dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi,
c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez, paniquez tout.
Attends, paniquez pas.
Niquez tout.
Niquez tout.
Paniquez, paniquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 19h04 avec le temps d'une jingle, on est presque pile à l'heure et c'est super. Du coup, comme c'est vendredi et que c'est 19h, et ben c'est l'heure des Canu Info du vendredi. Alors, avant même de vous présenter le fil, il y a une info hyper chaude qui vient de tomber. C'est vraiment le scoop, on se croirait presque sur du direct de BFM, sauf qu'on raconte moins de conneries. Et on peut vous informer que pendant que nous on fait le Canu Info aujourd'hui, il y a des bénévoles apparemment qui, avec le maire du deuxième, donc qui est un maire LR et un leader de la droite lyonnaise, se sont sentis obligés de nettoyer la gare Perrache. Alors on rappelle que ça fait 8 semaines maintenant que les agents de nettoyage de la gare Perrache qui sont salariés par un crancel, mais qui vont se faire virer parce que la métropole a changé le type de contrat, donc il faut que ce soit une insertion. Bref, on vous renvoie à des reportages qui ont déjà été diffusés sur Canu. Mais en gros, ça fait 8 semaines qu'il y a des agents de nettoyage en grève et il y a une vingtaine de bénévoles qui ont a priori pas eu grand chose de mieux à faire de leur journée que d'aller nettoyer ça. Et par ailleurs, il y a un maire aussi, qui est le maire du deuxième, donc qui n'avait pas grand chose d'autre à faire de sa journée que d'aller nettoyer la gare Perrache. On ne les remercie pas, casseurs de grève, c'est pas du bénévolat.
Voilà. Non, ni de l'écologie, on rappelle. Hein. On est pour que les gens soient payés et aient des vrais contrats. Alors, on va quand même vous présenter notre fil d'infos avant de se lancer dans les sujets de fond. On va commencer par le national et vous parler de la loi séparatisme qui frappe le monde associatif.
Ensuite, on vous parlera de nucléaire avec le procès qui va se tenir à Nancy les 28 et 29 30 novembre concernant les malfaiteuses.
Et avant le 28 novembre, il y a le 25 qui est la journée contre les violences faites aux femmes. On vous en parlera aussi.
Oui, puis après on ira au niveau du local et on vous fera un gros package là un peu, mais bon, on le fait souvent, on va y revenir sur autour du logement et de l'hébergement. Donc on commencera par vous lire un communiqué de l'illégalité sur l'hébergement d'urgence et la déresponsabilisation de l'État.
Ensuite, on vous dira qu'il faut vous attaquer à la crise du logement plutôt qu'aux locataires et aux squatteurs.
Et pour soutenir tout ça, on vous parlera d'une manifestation qui aura lieu bientôt dans la région.
Et voilà, donc on vous parle de crise de logement et d'hébergement. Il y a derrière aussi la crise de l'assurance chômage. Bref, rien ne va plus. Et on a la semaine dernière accueilli une personne de la brigade des fauchés. Sachez qu'entre-temps, ils ont sorti un tract qu'on aura le plaisir de vous relayer.
Et puis, après tout ça, on aura notre rubrique agenda, bien sûr.
Et pour finir, il y aura le ACAB et vous n'hésitez pas à nous appeler. Je vais faire comme si je connaissais le numéro par cœur, mais c'est pas vrai.
Mais je crois que tu peux réussir à le voir. Appelez-nous, c'est le même numéro que l'émission d'avant, c'est génial. C'est le 04 78 39 18 15.
Bravo.
Et donc on sait que vous avez appelé demi-heure. Du coup, il faut continuer à nous appeler pour nous dire ce que ça veut dire ACAB. Je répète, au 04 78 39 18 15.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et pour commencer ces infos nationales, vous vous rappelez qu'en avril 2021 a été votée la fameuse loi séparatiste, il faut lire le sous-texte islamophobe, en tout cas c'est ce qu'on avait pu en comprendre à l'époque, qui était passé et donc qui rappelait cette histoire du contrat républicain. Donc les assos subventionnés par des fonds publics devaient s'engager à respecter le contrat d'engagement républicain qui comporte tout un tas de mesures, etc. En gros, à l'époque, c'était vraiment globalement fait pour, en tout cas c'est moi ce que j'en avais compris, pour aller continuer de taper sur les musulmans et de pouvoir interdire tout un tas de trucs dès que ça plaisait pas à l'État. Donc c'est passé en avril 2021 parce qu'on a, malheureusement l'État a pas voulu entendre toutes les contestations qui ont été lancées, et maintenant on commence aussi à en mesurer des effets, et peut-être des effets qui étaient peut-être préparé, mais en tout cas plutôt moins attendu. Donc là, on va vous parler un peu alors d'Alternatiba Poitiers. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas quand même, il y a la préfecture de la Vienne qui avait menacé. Alors ils menacent jamais directement les associations, c'est là où c'est un peu malin. Ils menacent les collectivités locales qui les financent. Donc menacer en disant oulala, ils sont pas gentils du tout, ils respectent pas le contrat républicain. On va vous obliger à couper les financements. Alors, pour le coup, exceptionnellement, les collectivités locales ont eu le courage de dire à la préfecture « bah vas-y pour voir », et malheureusement, la préfecture a dit « dac ». Et du coup, ils ont saisi le tribunal administratif pour attaquer le fait que le Grand Poitiers et la ville de Poitiers, donc globalement, alors pas la métro, mais l'équivalent, on va dire, de la métro et de la municipalité, pour les financements qu'ils donnaient à Alternatiba. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que quand même, le contrat républicain et puis Alternatiba, on les voit pas très engagés là-dessus, c'est en fait plutôt sur leurs engagements écologistes, et en particulier, là, ce qui tombe vachement bien, c'est Sainte-Soline, parce que du coup, toutes les associations qui ont soutenu Sainte-Soline, en fait, se mettent plus ou moins en bisbille avec les subventions et le contrat d'engagement républicain.
Est-ce qu'on peut redire ce que c'est que Sainte-Soline?
Les mobilisations contre les méga-bassines, où il y avait effectivement des gens qui étaient quand même vachement fâchés contre le fait qu'il y ait finalement une appropriation de l'eau qui semblerait être une ressource qu'on aurait envie de partager à tout le monde. Mais on peut aussi dire qu'il y avait quand même des gens un peu moins énervés, voire un petit peu mous. On se rappelle que Yannick Jadot s'est pointé là-bas avec les déboires qu'on lui connaît. Donc, en fait, ça vient contrevenir à quelque chose qui est marqué dans le contrat d'engagement républicain, qui est l'association s'engage à ne pas cautionner la violence envers quiconque. Alors là, c'est sûr qu'une fois qu'on a dit ça, finalement, c'est facile, parce que la violence, c'est quand même un terme qui est très très difficile à définir d'un point de vue législatif, et du coup, ça ouvre un champ des possibles, comme toutes les lois floues d'ailleurs qui sont passées de toutes ces dernières années. Finalement, comme on dit rien de bien précis, on peut s'en servir pour tout et n'importe quoi. Donc la conclusion, c'est quand même que la PREF a attaqué et a fait sauter les subventions de Alternatiba. Dans le même genre, il y a aussi un centre social à Tourcoing, alors qui était sponsorisé, pardon, qui était financé entre autres par la CAF et par l'État, et qui s'est vu refuser le renouvellement de ses subventions. Alors ils disent que c'est parce qu'il était dans des conditions déplorables d'un point de vue financier, qu'ils avaient aucune garantie sur aucune visibilité sur le futur, etc. Il y a aussi des femmes voilées qui travaillaient là-bas, et bizarrement ça a été moins mentionné dans les médias, mais il semblerait que quand même lors des échanges entre le centre social et les financeurs, ce soit des choses qui soient revenues à plusieurs reprises. Alors ça c'est quand même vraiment très très problématique et vraiment très très chiant, parce qu'en vrai ça met d'un coup une pression de fou en fait sur tout le milieu associatif, et dans le milieu associatif il y a des trucs de cons, mais il y a aussi beaucoup de trucs vraiment sympas qui se font, et on pense par exemple aux centres sociaux, et c'est que des gens qui dépendent des subventions seulement. Là, quand c'est Alternatiba, ils se font sauter les subventions, donc ils ont encore des petits bouts de recours, ils peuvent faire appel au tribunal, etc., etc. Mais là où ça devient vraiment très très pervers ce truc-là, c'est qu'en fait sauter des subventions, c'est vraiment pour marquer le coup, et là c'est le ministère de l'Intérieur qui sort les muscles en disant vous êtes pas gentils, on va vous avoir, mais en fait il y a toute la question du renouvellement des subventions. Et en fait,
fait, quand on renouvelle pas les subventions quand on est une collectivité territoriale ou si c'est des subventions de l'État, il n'y a pas bien de justification à apporter. Donc on peut juste dire, bah, en fait, on va arrêter de raquer. Les subventions, ça peut être sur 1, 2, 3 ou 5 ans en général. Et en fait, à la fin de l'échéance, on peut dire, bah, non, mais on choisit de pas renouveler et il n'y a pas besoin de motiver tout ça. Du coup, qu'est-ce que ça va créer comme effet? Parce que c'est ça qui est vraiment très pervers. C'est du coup, effectivement, bon, Alternatiba, ils font sauter leur sub, il va y avoir un mouvement de contestation, etc. Mais il y a surtout plein d'assos, en fait, qui se retrouvent là dans une situation hyper compliquée de se dire, mais comment est-ce que nous, est-ce qu'on risque pas de se faire sauter les subs? Et il y a beaucoup d'associations, en fait, qui dépendent des subventions, ne serait-ce que pour salarier aussi correctement qu'elles le peuvent, leurs employés. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça va générer, c'est sûr, des problèmes d'autocensure, en fait, de se dire, oh là là, mais alors, je vais devoir interpréter le contrat d'engagement républicain et le respecter au mieux parce que sinon, je vais me faire avoir mes subs. Alors, du coup, est-ce que je peux engager une femme voilée? Parce que, bon, dans une petite asso, on sait qu'il y a des précédents et des jurisprudences qui viennent valider le fait qu'on peut être subventionné par l'argent public et avoir des personnes voilées qui sont au contact du public. Mais bon, faut quand même déjà se poser la question, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a une jurisprudence? Aller la chercher? Enfin, c'est quand même un merdier. Et en fait, il y a plein d'assos qui n'ont pas les moyens de faire ça et qui n'ont pas les connaissances pour aller chercher tout ça. Du coup, ça va faire des tas de phénomènes d'autocensure avec des gens qui ne vont plus oser faire des trucs qui ne sont même pas dans le contrat républicain, qui sont légaux par ailleurs, mais effectivement, avec des trucs très flous et en donnant pas les moyens, et surtout avec cette pression, si la sub est pas renouvelée, vous pouvez quasiment rien faire. Les recours, ils sont quasiment inexistants. De même, quand on va vouloir porter des discours publics, eh ben, toujours dans la tête, avant, ça existait quand même moins. Alors effectivement, on n'allait pas dire il faut absolument casser du keuf. Ça, on pouvait pas avoir des subventions quand on disait ça. Mais il y avait quand même tout un tas de discours qui n'étaient pas directement dans la ligne directrice de l'État, qui pouvaient être tenus et qui existaient, et pour des assos qui quand même continuaient de toucher des subventions. Et ben là, de plus en plus, on va avoir ce phénomène d'associations qui vont se dire « Ah, mais alors attends, si je dis ça, peut-être on va trouver que ça rentre pas dans le contrat républicain et du coup, je vais pas le dire. » Et du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont mettre un peu d'eau dans leur vin, elles vont arrondir les angles et elles vont être moins radicales et moins fermes dans leur prise de position publique.
Et puis moi, je trouve que c'est une arme qu'on voit qui est maintenant vachement mobilisée par nos ennemis politiques. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on voit très régulièrement en ce moment des députés RN notamment demander le retrait des subventions. Enfin, on voit ça des députés LR et des députés RN. On le voit sur l'UNEF à Lyon, sur le planning familial très régulièrement, sur l'association Filaction à Lyon. Et où du coup, c'est des demandes publiques. Et du coup, on voit que c'est une arme aussi qui est très médiatisée et très médiatisée par les ennemis politiques. Alors, on sait que ces demandes, elles ne sont pas toujours suivies des faits. Elles le sont parfois. D'ailleurs, parfois, les subventions sautent parce que ces demandes sont médiatisées et que parce que ça va avec la diabolisation d'un certain type de discours, notamment autour des discours de lutte contre les discriminations, qui sont des discours qui sont extrêmement diabolisés par une frange des LR et par l'intégralité de RN. Et que tout ça, voilà, c'est pas que dans la tête des associations de peur, mais que c'est aussi une arme qui est utilisée par les ennemis politiques actuellement de plus en plus.
Et d'autant plus forte qu'elle est fortement relayée, parce que quand il y a une demande c'est plutôt exceptionnel jusqu'à aujourd'hui, peut-être ça va devenir malheureusement commun, mais comme c'est plutôt exceptionnel, du coup une demande de retrait de subvention, boum, ça fait les titres de tous les médias de droite et tous les vendus, et du coup ça donne vachement d'ampleur à des phénomènes qui devraient malheureusement pas exister. Voilà, donc un an et demi après, et ben on voit une loi islamophobe, on pouvait déjà la détester à l'époque pour ça, et on voit qu'en plus, ils sont malheureusement assez malins pour en étendre le champ d'action sur tout ce qui n'est pas dans la ligne de l'État, finalement, peut être privé de subvention.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et donc là, on va vous parler du nucléaire, mais notamment, enfin surtout, de la répression autour de la lutte anti-nucléaire. Je vais vous parler du procès qui va se tenir à Nancy. Donc en début de semaine prochaine, les 28, 29 et 30 novembre, où en fait la cour d'appel de Nancy va juger de nouveau sept camarades accusés entre autres d'associations de malfaiteurs. Alors pour vous expliquer un peu toute l'histoire, Je vais vous raconter un peu des choses qui sont tirées de deux communiqués là, qui ont été publiés récemment. Un communiqué qui émane de la coordination CIGEO Burstop et un communiqué qui émane de l'association Sortir du Nucléaire. Donc pour le petit rappel historique, ça va être le communiqué de l'association Sortir du Nucléaire. Et pour la suite, ça sera la coordination CIGEO Burstop. Alors du coup, déjà avant toute chose, je veux rappeler que toutes les procédures dont je vais vous parler concernent l'organisation d'une manifestation non déclarée en préfecture qui a eu lieu le 15 août 2017 à Bure. Et en fait, toute la procédure va se déchaîner il y a 4 ans, donc le 20 juin 2018, 4 jours seulement après une importante manifestation contre le projet CIGEO qui avait rassemblé plus de 2000 participants participantes dans les rues de Bar-le-Duc. Une vague massive de perquisitions, d'arrestations et de convocations conduisait 7 personnes à être poursuivies dans le cadre d'une instruction pour association de malfaiteurs. Quelques mois plus tard, outre de nouvelles perquisitions, s'ajoutaient 2 autres mises en examen, puis l'année suivante encore, 2 autres, dont l'avocat de la lutte. Ce que l'on reproche fondamentalement au-delà du festival de charges retenues, leur engagement dans la lutte contre le projet CIGEO. Cette vaste opération répressive qui aura mobilisé de considérables moyens financiers, policiers et techniques, dignes d'un mauvais scénario orwellien, aura en effet jeté son filet de suspicion sur l'ensemble d'une lutte menaçant chaque personne opposant à CIGEO, d'une potentielle perquisition, mise sur écoute et saisie de ses affaires. Au final, après 2 années et demie de placement sous contrôle judiciaire d'une dizaine de personnes, interdites de séjour à Bure et parfois dans toute la Meuse, et empêchées d'entrer en contact les unes avec les autres, le juge aura prononcé un non-lieu pour 2 personnes, dont l'avocat de la lutte. En outre, à l'issue d'un procès donc en première instance qui s'est tenu les 1, 2 et 3 juin 2021 à Bar-le-Duc, les accusations de participation à une association de malfaiteurs se sont dégonflées et avec des relaxes donc sur plusieurs chefs d'inculpation, dont celui-ci, donc, c'est-à-dire association de malfaiteurs, et réduisant au final une instruction de 24 000 pages quand même à une condamnation pour la participation et l'organisation d'une simple manifestation non autorisée ayant occasionné des troubles à l'ordre public. Alors je vais vous dire quand même plus précisément les condamnations qu'il y a eu pour cette manifestation non autorisée. Donc il y a eu 2 personnes qui ont été relaxées du chef d'inculpation d'association de malfaiteurs, 2 complicités de détention d'explosifs, et qui sont condamnées à 9 mois de sursis pour organisation d'une manifestation non déclarée et participation à un groupement après les sommations. Une personne relaxée des chefs d'inculpation d'associations de malfaiteurs, de complicité, de détention d'explosifs, a été condamnée à 9 mois de prison ferme pour organisation d'une manifestation non déclarée et participation à un groupement après les sommations. Une personne a été condamnée à 6 mois de sursis pour participation à un groupement après les sommations. Une personne a été condamnée à 9 mois avec sursis pour le transport d'explosifs. Et une autre encore à 12 mois ferme et interdiction de port d'armes durant 5 ans pour la détention d'explosifs.
Pour donner des petites comparaisons, les keufs qui ont tabassé Arthur à Lyon, ils ont pris 12 mois avec sursis pour violence en réunion de part des personnes dépositaires de l'autorité, et etc. Ça donne une petite idée de la juste valeur de la justice.
Ouais, tout à fait. Et ajouté à ça, la Cour a décidé d'une confiscation de tous les objets saisis lors des différentes perquisitions, à savoir des papiers, des téléphones, des ordinateurs, des imprimantes, etc., etc. Donc, alors les camarades inculpés ont fait appel de ce délibéré politique, inexplicable sur le plan judiciaire et dépourvu de fondement. Le procureur, particulièrement silencieux et distrait durant les 3 jours de procès, avait quant à lui fait appel de l'ensemble des décisions de première instance. Ce qui signifie que les 28, 29 et 30 novembre prochains, un tout nouveau procès se déroulera donc à la cour d'appel de Nancy et que le chef d'accusation d'association de malfaiteurs, abandonné en première instance, pourrait revenir sur le tapis. les opposantes opposants à CIGEO, contrairement au procès qui s'était passé à Bar-le-Duc, là, n'organisent pas de grandes mobilisations pendant donc celui de Nancy. Ils ont choisi de se concentrer sur la bataille qui se jouera entre les murs. En revanche, tout au long de la semaine qui vient de se passer, de cette semaine-là, la lutte a invité à des rendez-vous en soutien aux inculpés. Il s'agissait de faire écho à ce que l'appareil politico-judiciaire a cherché à faire taire, à savoir l'opposition antinucléaire et en particulier celle contre le projet CIGEO. Rappelons que c'est contre un projet industriel démesuré, criblé d'incertitudes en termes de faisabilité, d'impact, de sûreté et de coût, et objet d'une contestation déterminée depuis plus de 30 ans qu'il y a cette mobilisation, et que ce sont bien ces convictions-là qui sont invitées à la barre du tribunal, donc ces trois jours de début de semaine. Alors toutes ces infos là que je viens de vous dire, vous pouvez les retrouver sur le site notamment nous sommes tous des malfaiteurs.noblogs.org, sur burbure.info et sur sortirdunucléaire.org. En tout cas, ils ont tous notre soutien. Et vous aurez très certainement des news dans la semaine prochaine en suivant les différents médias que je viens de vous lister ou en écoutant un des nombreux Canu Info de la semaine. Affaire à suivre, et on espère qu'ils ne vont pas se choper l'association de malfaiteurs par-dessus le marché.
Invisible et disponible, libre et irréductible.
Canu Info.
Invisible et disponible, libre et irréductible.
Actu féministe.
Les hommes fiers et féministes et solidaires et en colère.
Canu Info du vendredi.
Et oui, vous le savez sûrement, aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée contre les violences faites aux femmes. Alors nous, on s'en fiche un peu des journées nationales ou internationales. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est que ça visibilise toujours des luttes qui se tiennent au quotidien. Et notamment, aura lieu demain à Lyon, comme chaque année, une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles à l'appel du collectif Droits des Femmes 69. Ce sera à 14h, place Bellecour, donc on avait envie de vous relayer leur communiqué. Les violences sexistes et sexuelles visent les femmes et les minorités de genre. Elles n'arrivent pas au hasard, mais sont l'expression du patriarcat, qui est un système inégalitaire fondé sur un rapport de domination des hommes sur les femmes. Les violences sexistes et sexuelles s'inscrivent dans un continuum des violences, c'est-à-dire que toutes les violences exercées à l'encontre des femmes et des minorités de genre sont inséparables les unes des autres. Elles connaissent de nombreuses et diverses manifestations, allant du sexisme au quotidien, aux violences conjugales et aux féminicides, des violences psychologiques au harcèlement sexuel, du viol aux violences gynécologiques et obstétricales, des atteintes au droit à l'IVG, aux stérilisations forcées. Et elles s'exercent dans des différentes sphères, dans la famille, dans le couple, au travail, dans les partis politiques, des syndicats, au gouvernement et dans l'espace public. Les violences sexuelles, et particulièrement le viol, sont également utilisées comme armes de guerre dans de nombreux pays à travers le monde. Les violences sexistes et sexuelles touchent aussi les enfants, co-victimes des violences conjugales ou victimes de violences sexuelles telles que l'inceste par exemple. Ces violences s'imbriquent et se cumulent pour certaines personnes en raison de leur situation de handicap, de vulnérabilité, de leur âge, de leur classe sociale, parce qu'elles sont précaires, parce qu'elles sont racisées, en raison de leur statut de migrante, parce qu'elles sont lesbiennes ou bisexuelles, parce qu'elles, ils sont transgenres, intersexes, autistes, etc. À l'international, la montée des politiques fascistes et réactionnaires menace quotidiennement la vie des femmes et des minorités de genre et le droit à disposer de son corps. Nous exprimons notre solidarité avec les femmes et minorités de genre en lutte partout dans le monde, notamment en Iran, en Afghanistan, en Pologne, en Italie. Luttons ensemble contre toutes les violences sexistes et sexuelles partout dans le monde. Donc vous l'avez compris, le rendez-vous est donné place Bellecour demain. À 14h, il y aura un happening des femmes en blanc organisé par Filaction, des prises de parole. Et la manifestation partira à 15h. Le trajet, c'est Bellecour, hôtel de ville, Bellecour. Il faut savoir que ces manifs, elles n'ont pas tout lieu le 26 novembre. On ne sait jamais trop quelle date prendre autour du 25. Et en France, il y a déjà des millions de personnes qui ont manifesté la semaine dernière samedi dernier à l'appel du collectif féministe Nous Toutes. Il y a 80 000 personnes qui ont été recensées à Paris. Et la manif était déjà la semaine dernière à Paris très très politique. Elle dénonçait notamment les insuffisances du gouvernement en matière de lutte contre les violences de genre. On peut lire par exemple dans un article de Mediapart un peu « La colère était le seul mot d'ordre » scandé ou affiché sur les centaines de pancartes violettes de la manifestation parisienne. Une colère face à des chiffres tristement intacts et que le collectif féministe Nous Toutes, à l'initiative de cette marche, rappelle encore et toujours. 80% des plaintes pour violences au sein du couple sont classées sans suite. 65% des victimes de féminicide avaient saisi les forces de l'ordre ou de la justice. 2 victimes sur 3 font état d'une mauvaise prise en charge lorsqu'elles veulent porter plainte. 90% des plaintes pour harcèlement sexuel au travail sont classées sans suite. Seulement 0,6% des viols sont condamnés. Enfin, je veux dire, c'est énorme comme chiffre. Si la question des violences de genre est bien plus prise en compte 5 ans après MeToo dans le discours politico-médiatique, de nombreuses féministes ont tenu à défiler pour dénoncer l'habituelle inertie du gouvernement, mais aussi la violence de certains discours contre les mouvements de lutte. Pour Pauline Baron, porte-parole du collectif Nous Toutes, ce rassemblement était un souhait autant qu'une urgence face au backlash actuel et au déferlement de discours racistes, islamophobes, LGBTI-phobes et validistes. Backlash, ça veut dire un peu, vous voyez, quand on porte une lutte, le revers de bâton, le retour de bâton. Et ça, ça arrive notamment vraiment très fort sur les mouvements féministes. Dès qu'il y a un mouvement qui arrive à pointer son bout de son nez, à faire reconnaître, en tout cas entendre dans les médias un certain type de discours, les années d'après sont extrêmement dures pour ce mouvement-là. Et c'est vraiment ce qui se vit depuis quelques mois, un an, autour des mouvements féministes, notamment autour des luttes, autour des questions trans et des questions islamophobes. Le cortège de tête était réservé à des organisations plus radicales, ce sera le cas aussi. Demain, le cortège de tête est en mixité choisie. À Paris, on pouvait retrouver l'association Accept ST qui lutte contre les discriminations transphobes, le collectif Mille et une lesbiennes et queer, les dévalideuses qui représentent les voix des femmes handicapées, le collectif enfantiste ou l'association Les Hijabeuses. Dans l'appel à manifester, Nous Toutes avaient aussi tenu à montrer que la situation était catastrophique pour de nombreuses femmes dans de nombreux endroits. Vous pouvez lire aussi dans leur tract, par exemple, « Lorsque 225 000 femmes sont victimes de la violence de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année, quand un tiers des femmes sont victimes de harcèlement sexuel au travail, quand 80% des femmes handicapées sont victimes de violences, quand 85% des personnes trans ont déjà subi un acte transphobe, quand 69% des femmes racisées sont victimes de propos discriminants au travail, quand les femmes grosses ont 4 fois plus de risques d'être discriminées au travail, quand 6,7 millions de Français et Françaises ont subi l'inceste, quand des patients-patientes sont violés dans des cabinets gynécologiques ou des maternités, nous n'avons pas le choix. » Place de la République à Paris, point de départ de la manifestation, des centaines de pancartes viennent dénoncer l'inaction du gouvernement, mais aussi les violences que subissent les travailleuses du sexe, les femmes trans et les LGBTQIA+. Entre les chansons d'Alicia Keys, d'Angèle ou d'Aya Nakamura, des participants de Scandes, nous sommes fortes, nous sommes fières et féministes et radicales, où on se lève, on se casse et on vous emmerde, en référence bien sûr à Adèle Haenel. Donc 5 ans après MeToo, le constat reste en effet désastreux. En 2021, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, comparables à ceux des années précédentes, hors confinement. Et le bilan de 2022 promet d'être encore plus lourd, puisque le collectif recense déjà 120 féminicides depuis le début de l'année. Pour ce seul mois de novembre, déjà 9 femmes ont été tuées, soit une tous les 2 jours. La politique des petits pas, c'est justement ce que reproche le collectif Nous Toutes, qui, comme de nombreuses associations, réclament des réformes ambitieuses et le déblocage de 2 milliards d'euros et le vote d'une loi cadre, à l'image de ce qui a pu être fait en Espagne. Celle-ci permettrait la création de brigades de juridiction spécialisées, d'une aide financière pour la mise en sûreté des femmes victimes, de 15 000 places d'hébergement supplémentaires, ou encore le renforcement de l'éducation à la vie sexuelle et affective à l'école, dont l'application n'est absolument pas respectée. Alors voilà, encore une avalanche de chiffres, un peu cette avalanche de chiffres chaque année, mais aussi quand même pour rappeler, non, la lutte contre le patriarcat, c'est pas terminé, et que ces chiffres, ils sont toujours biaisés, que c'est hyper difficile de faire des enquêtes approfondies, parce que qu'est-ce qui les fait? Est-ce qu'on les fait par rapport aux personnes qui portent plainte? C'est absolument pas représentatif. Il y a une enquête qui vient de sortir, que vous pouvez retrouver sur Internet, qui est la plus grosse enquête faite depuis 2015, autour des questions de violence et qui montre l'extrême majorité des violences sont faites, sont subies par des femmes dans toutes les sphères. Et voilà, du coup, vous pouvez la retrouver sur Internet. Il y a plein d'articles dans plein de médias différents ces derniers jours autour des violences faites aux femmes. Et je sais même pas si je vous conseille de le lire, mais pour terminer, je suis tombée en préparant cette émission sur un article qui s'appelle « Le gynécologue Émile Daraï, mis en examen pour violence volontaire sur 32 femmes ». Et cet article est vraiment proprement abject. On lit, il y a marqué « temps de lecture 8 minutes », alors je sais pas combien de temps j'ai mis à le lire. Mais pendant 8 minutes, on voit vraiment, je sais pas, moi je dirais que c'est des viols hein, quand même à chaque fois, enfin des agressions volontaires d'un type qui est un ponte de lutte contre l'endométriose en plus, qui a des personnes extrêmement vulnérables en face de lui. Et voilà, l'une raconte un toucher rectal surprise, une autre lui avoir hurlé stop sans qu'il arrête, une autre encore avoir senti ses sutures craquer. Sont donc une trentaine à avoir déposé plainte contre ce type qui continue à dire « Oh ben non, moi je vois vraiment pas le problème ». Bon, bah tant mieux hein, qu'elles aient réussi à porter plainte, tant mieux qu'elles aient réussi à poser des mots, à se créer en collectif, tant mieux que ce type n'exerce plus, il est soumis à un contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec les victimes et interdiction de pratiquer des consultations privées en gynécologie, mais pour montrer encore l'ampleur des violences qu'on retrouve partout et évidemment dans les suivis gynécologiques.
Et maintenant, on s'enchaîne avec un morceau de musique, tu veux le présenter ?
Et oui, un morceau de Infecticide qui s'appelle La voiture de la police.
Voilà, c'est parti.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
Et vous ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici
et dans les agendas de en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes, en chantant résiste.
Mon ami, le vieux, tâchez l'indifférence. C'est la guerre. La guerre de défense contre la misère qui attaque l'univers total des hommes.
Il y a quelque chose de dangereux dans les réquisitions. C'est des petits raccourcis, ça paraît tellement évident, mais c'est pas une réponse structurelle, donc je suis pas extrêmement favorable.
On n'a jamais vu la réquisition être la réponse à la question du manque de logement, vous le savez très bien.
C'est-à-dire qu'on raisonne hiver après hiver sur les bâtiments publics qui pourront être réquisitionnés.
C'est pas en cachant la misère sous le tapis que c'est ça.
Bah, écoutez, moi j'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière.
Et oui, vous en parle souvent du droit au logement, des questions d'hébergement, et malheureusement, pas on se disait ça en off, on vous raconte rarement des bonnes nouvelles. Et on en parle d'autant plus chaque année parce que le froid arrive, on redit que la question du logement c'est une question qui existe tous les jours de l'année, particulièrement aussi en été quand elle est moins médiatisée.
Mais parce que crever de chaud dehors et pas avoir accès à l'eau par exemple pendant le confinement quand on a coupé l'accès à l'eau aux personnes qui vivaient dehors, c'est autant de la merde que crever de froid dehors finalement.
Mais là, j'ai l'impression, alors c'est sûrement cyclique, mais que quand même il y a des appels à l'urgence de la part de plusieurs collectifs et associations depuis plusieurs semaines. En tout cas, nous, on en a trouvé plusieurs sur le net et en discutant et un peu en étant finalement en habitant à Lyon, en s'en rendant compte nous-mêmes. Et on avait envie de vous les relayer parce que pareil, ça va pas être des bonnes nouvelles, mais c'est important de les relayer et de savoir aussi où pouvoir se rencontrer et s'organiser. On va commencer par vous lire le communiqué du collectif Solidarité QSEC qui est sorti cette semaine et qui s'appelle « Hébergement d'urgence et déresponsabilisation de l'État ». Cela fait maintenant plusieurs semaines que notre collectif et lieu d'organisation est confronté à l'urgence de familles à la rue. Alors que nous n'avons pas les moyens humains et matériels d'assurer de l'hébergement d'urgence, cette situation inacceptable nous confronte aux problématiques de mal logement, mais aussi à notre impossibilité à les prendre en charge collectivement. Dans le quartier de Villeurbanne-Cusset, il y a à notre connaissance au moins trois familles avec enfants en bas âge qui se retrouvent sans proposition d'hébergement. Les chiffres de l'INSEE recensent quant à eux sur Villeurbanne 24 familles à la rue, dont 8 parents isolés, et 62 enfants, dont 9 de moins de 3 ans. Comment peut-on tolérer que l'État, la préfecture du Rhône et la métropole de Lyon, par leur politique indigne de non-logement, exposent des familles à l'extrême précarité de la vie à la rue ? Cette problématique est d'autant plus intolérable quand on sait que les métropoles et les préfectures investissent des budgets conséquents pour appliquer leur politique d'expulsion. Puisque ces institutions argumentent leur inaction par un manque de moyens, pourquoi ces mêmes sommes ne pourraient-elles pas plutôt être employées à trouver des solutions de logement pérenne ? En outre, dans un contexte d'inflation galopante, les charges continuent d'augmenter, les dispositifs d'hébergement d'urgence restent saturés et les expulsions de lieux de vie informels et locatifs se multiplient malgré la trêve hivernale. Par ailleurs, la plupart des expulsions ne sont pas anticipées via un diagnostic social, alors que la loi l'oblige. Nous dénonçons ces manœuvres étatiques indécentes qui consistent à prétexter l'impossibilité de créer de nouvelles places d'hébergement d'urgence pour mieux justifier après coup des expulsions à tour de bras sans proposition de relogement. Face à cette situation catastrophique, des collectifs de parents d'élèves et de personnels de l'éducation s'organisent. Une dizaine d'écoles sont actuellement occupées dans la métropole lyonnaise. Et des collectifs réquisitionnent des bâtiments vides, malgré la criminalisation croissante des squatteurs et des squatteuses. Rappelons qu'en 2021, il est recensé 3 millions de logements vacants en France, soit 8,3% du parc immobilier total. Ne serait-ce qu'à Villeurbanne, 4 écoles sont à ce jour occupées. Berthelot, Camus, Nigritel, Noir et Renan. Si l'on ne peut que saluer l'entraide et la solidarité qui s'expriment ainsi, nous ne pouvons pas infiniment jouer les supplétifs des services sociaux défaillants. Il est impératif de dénoncer les décisions politiques inhumaines de l'État, de la région, de la métropole et de la mairie. Leur déni systématique du droit au logement condamne les personnes à une précarité extrême. Organisons-nous pour exiger un logement digne pour tous et toutes. Et du coup, voilà, le collectif Solidarité Cusset appelle à aller à des manifestations dont on va vous parler d'ici une dizaine de minutes. La première, c'est le samedi 3 décembre à 14h, place du Pont, pour protester contre la politique de spéculation financière du quartier de la Guillotière qui laisse de nombreux logements vides. Et le jeudi 8 décembre à 18h30, devant la mairie de Villeurbanne, pour rappeler que même pendant la fête des Lumières, des enfants doivent dormir dans le froid de la rue. Il y a une autre manifestation qui aura lieu mardi 29 novembre à 11h30 devant la Métropole. Celle-ci, elle est appelée par les professionnels de l'action sociale, médico-sociale, du sanitaire, du public et du privé, qui sont face finalement au même constat. Eux, par contre, c'est du côté « on n'a pas les moyens de faire notre travail et les institutions ne nous permettent pas de faire appliquer la loi ».
Et même de travailler pire en pire avec cette politique nouvelle qui est de multiplier les équipes mobiles, parce que ça c'est les grandes lubies, les grandes annonces journalistiques. Oh, on a créé une équipe mobile, alors maintenant il y a des soignants partout dans les rues, il y a des travailleurs et des travailleuses sociales à gogo, mais en vrai c'est vraiment que de la merde, parce que finalement c'est des équipes mobiles qui vont voir les gens, mais en fait il n'y a rien derrière, et du coup ça fait des effets d'annonce qui sont super, et puis l'aller vert c'est très très à la mode, ça fait très bling bling, mais derrière en fait c'est aller voir les gens pour leur dire wesh, ah t'es dehors, ah bah c'est con, j'ai pas de solution pour toi, et du coup, tout ça, c'est encore que de l'annonce, ça fait semblant de soutenir, c'est que des postures très politiques, comme le zéro remise à la rue, qui garantit pas la justice aussi d'accès et l'égalité d'accès au logement, et derrière, qui sont très très fortement soutenues, et du coup, avec des professionnels qui se retrouvent en souffrance à passer leur journée à voir des gens qui sont dans la merde jusqu'au cou, et à leur dire, ah bah désolé, en fait, je peux rien pour toi.
Et du coup, pour dire aussi que, voilà, que la manifestation du 29 novembre portée par les professionnels, mais aussi les manifestations du 3 décembre et du 8 décembre, remettent pas en cause le travail des professionnels de l'action sociale ou de médico-social, mais remettent bien en cause les institutions qui donnent absolument plus les moyens de faire du travail social, et derrière, du coup, tous les corps de l'État, du municipal au national. Et tout ça derrière, avec aussi des lois qui passent, et ces lois-là qui continuent à enfoncer les précaires, déjà que la loi existante n'est pas respectée, la loi change pour toujours moins de droits, et on retrouve par exemple une tribune qui s'appelle « Plus tôt qu'aux locataires et squatteurs, attaquez-vous à la crise du logement », qui est signée par une myriade d'acteurs et d'actrices de l'action sociale, et qui revient sur une proposition de loi des députés du groupe Renaissance qui ont déposé une proposition de loi d'une grande brutalité à l'égard des personnes sans domicile qui squattent en état de nécessité un logement vacant, mais aussi des locataires qui ont une dette de loyer ou qui sont menacés d'expulsion. D'une part, cette proposition de loi prévoit de condamner à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende les personnes et familles sans abri qui occupent un logement vide de tout meuble pour se protéger de la rue. Elle permet en outre de les expulser sur décision du préfet en quelques jours et sans jugement, alors que 3,1 millions de logements sont vacants et qu'aucune action publique n'est mise en œuvre pour en diminuer le nombre. D'autre part, le locataire convoqué au tribunal pour une dette de loyer sera sanctionné par la résiliation automatique de son bail et son expulsion prononcée, même s'il réussit à régler sa dette de loyer par la suite. Rappelons qu'à l'heure actuelle, pour éviter la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le juge peut lui accorder un échéancier pour rembourser l'impayé de loyer. S'il le respecte, son bail se poursuit, il n'est pas expulsé. Enfin, outre une réduction drastique des délais de procédure, la proposition de loi prévoit que si le locataire expulsé ne se met pas lui-même à la rue, il devient un délinquant. Il risque 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende après interpellation, comparution immédiate et condamnation. C'est le choix entre la rue où l'on meurt à l'âge moyen de 48 ans ou la prison pour celui ou celle qui refusera de quitter son logement afin de protéger sa famille. Ces députés préfèrent lutter contre celles et ceux qui ne peuvent se loger ou honorer leur loyer, faute de logements sociaux en nombre suffisant et de loyers abordables, tandis que les APL sont rognées et que les lois protégeant les locataires, les personnes mal logées et sans logis sont bafouées.
Et par ailleurs, foutre les gens en taule, on sait que la plupart des gens, une bonne partie en tout cas des gens qui se retrouvent à la rue, c'est aussi des gens qui sont passés par la taule parce qu'elle n'en a rien à foutre et qu'une fois la peine est finie, on parle de pseudo-réinsertion, mais en vrai, surtout, on remet beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens à la rue en fait, à sortir de taule. Donc du coup, t'as le choix entre te mettre dehors tout seul ou aller en taule et finir dehors après. C'est vraiment fantastique.
Non mais voilà, si vous avez suivi ce Canu Info, en gros, il y a des personnes à la rue, il y a les pauvres dispositifs qui existent, n'ont pas les moyens d'agir pour de vrai, et du coup, plutôt que de répondre à la crise du logement, visiblement, les propositions du groupe Renaissance, on rappelle que c'est le groupe de Macron, hein, décident qu'il est plus rentable de réprimer les squatteurs et les locataires en difficulté. Du coup, cette proposition-là va aggraver la crise du logement, et on vous en parle maintenant parce qu'elle va être débattue à l'Assemblée nationale à partir du 28 novembre. Ça veut dire qu'elle va être débattue à partir de la semaine prochaine. Okay. Alors, on n'est pas pour toujours la promotion des pétitions. Je sais qu'il y a une pétition qui circule qui s'appelle « Plutôt colocataires et squatteurs, attaquez-vous à la crise du logement ». Vous allez aller la regarder si vous voulez, mais surtout aller aux différentes manifestations dont on vous a parlé. Et pour conclure, du coup, la manifestation du 3 décembre à 14h, elle est appelée par les collectifs DAL 69 et La Guillotière n'est pas à vendre, pour le droit au logement, pour la réquisition des bâtiments vides, contre la spéculation immobilière, contre les dérives des projets de rénovation urbaine. Et oui, on en a des choses contre les charges élevées, contre les expulsions. Le rendez-vous, il est donné place Gabriel Péri. Place Gabriel Péri, ça veut dire La Guillotière. Le samedi 3 décembre.
Place Dupont, pour les
à 14h. Et je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire tout leur communiqué. J'ai l'impression que ça va reprendre un peu des informations qu'on a déjà dites. Vous pouvez aussi aller le lire sur Rebellion. Pour savoir aussi que le DAL 69, il propose une permanence.
Oui, il y a des permanences qui sont tous les mercredis au jusqu'ici, de 17h à 19h. Du coup, si vous avez des galères avec votre logement, si votre proprio veut vous expulser, si vous habitez un logement insalubre, etc., n'hésitez pas à venir les mercredis de 17 à 19h pour la permanence du DAL.
Et puis voilà, pour finir, pour vous dire que cette manifestation, elle est à la Guillotière aussi, parce qu'à la Guillotière, il y a un fort phénomène de gentrification. Ça veut dire, pour résumer, c'est compliqué de dire la gentrification, mais en gros, de très forte augmentation des loyers, et parallèle avec une vision très normative de qui devrait habiter dans ce quartier, et du coup de comment faire fermer des logements condamnés et interdire des pratiques de rassemblement et de sociabilité, tout ça pour les plus riches. Je pense qu'on va détester
gros,
ma définition de la
gentrification. Pas de pauvres trop près du centre-ville, vos Vaulx-en-Velin c'est suffisamment loin des bourgeois.
Voilà, oui. Bref, ben vous l'avez compris, mobilisons-nous pour le logement.
Canu Info du vendredi.
Vous avez un emploi, monsieur Lebowski?
Permettez-moi de remettre les pendules à l'heure.
Commandant,
c'est toujours là. On n'est pas là pour philosopher, carpentier.
Quand même, incroyable.
Et on le disait, alors ça, a priori, le gouvernement, la métro, la municipalité n'ont pas de thunes pour les hébergements. A priori, il n'y a pas de thunes pour la réforme chômage. On en profite quand même pour dire que dans la même semaine, il y a 15 milliards qui ont été filés au CUF sur 5 ans. Voilà, du coup, pour enchaîner sur cette réforme chômage, où a priori, bah, il n'y a plus de sous pour aider en fait, les gens qui sont en galère, on va vous lire un petit communiqué de la Brigade des Fauchés qui était venue la semaine dernière pour nous raconter, et même comme ça a été beaucoup répété, je suis sûr que je suis capable de vous dire que c'est les premiers et les troisièmes lundis du mois que ça se passe à la Lutine, et que si vous voulez discuter du format de la feuille de chou, c'est possible d'aller là-bas, mais surtout si vous avez des galères ou des questions sur votre chômage, votre RSA et autres aides. Alors le communiqué, maintenant plus sérieusement, c'est celui-ci. Non à la réforme de l'assurance chômage. Saccage de l'assurance chômage, c'est l'acte 3. Ce lundi 21 novembre 2022, le gouvernement a annoncé les détails du dernier volet de sa réforme de l'assurance chômage. Après avoir d'abord durci les conditions d'ouverture des droits, puis revu à la baisse le calcul de leur montant, il s'en prend désormais à la durée d'indemnisation. Le concept est simple et on nous l'a répété en boucle. Quand le contexte économique est bon, les règles seraient plus strictes et plus généreuses quand il est mauvais. Alors, plus généreuse quand il est mauvais, en fait, il n'y en a nulle part trace dans la réforme. Dans le meilleur des cas, si le taux de chômage est comme aujourd'hui, c'est-à-dire 7,3%, donc en dessous des 9%, ou en dessous d'une augmentation de 0,8% par trimestre, c'est vachement de chiffres, la durée d'indemnisation restera la même qu'aujourd'hui. Donc en gros, quand ça va bien, c'est comme aujourd'hui, il n'y a pas de cadeau. Aucun progrès espéré donc. Dans tous les autres cas, cette durée d'indemnisation sera réduite de 25%, ce qui revient à dire qu'une personne qui avait droit avant à 24 mois de chômage n'aura plus droit qu'à 18 mois. Pire, le gouvernement ajoute encore deux mesures. l'assimilation de fait de tout abandon de poste à une démission, ce qui ne permet donc pas d'ouvrir des droits au chômage, et la privation de toute indemnité chômage pour les personnes en fin de CDD qui refuseraient deux propositions de CDI de leur employeur en un an. Alors là, quand même, je me sens obligé de m'interrompre dans la lecture et quand même de dire, c'est-à-dire que vous êtes en CDD, vous avez un patron qui vous harcèle au travail, par exemple, on en a parlé plus particulièrement si vous êtes une femme, il y a quand même vachement de chances que ça arrive, parce que des cons, il y en a beaucoup, surtout chez les employeurs, et là, en fait, il va vous proposer un CDI, et en fait, vous allez vous faire niquer vos indemnités chômage si vous refusez de travailler pour des cons, alors que vous aviez signé un contrat à durée déterminée en vous disant, dans le pire des cas, à la fin du contrat, je m'en vais. Bah là, ça va plus être comme ça que ça se passe, donc en vrai, l'employeur a indirectement le moyen, alors peut-être pas de vous forcer à travailler pour lui, mais quand même en fait de vous niquer vos revenus si jamais vous refusez, ce qui est quand même un sacré délire, excusez-moi. Je reprends après ça la lecture du communiqué. Voilà qui place les salariés dans une position de fragilité encore aggravée vis-à-vis d'un patronat qui dispose de nouveaux moyens de pression. Il y a un petit chapitre, donc les mensonges du gouvernement. Pour justifier un tel paquet de mesures, le gouvernement ne recule devant aucun mensonge. Le premier consiste à faire croire qu'on serait aux portes d'un retour au, entre guillemets, plein emploi. Or, quelle réalité ? Selon les chiffres officiels de Pôle emploi, il y a aujourd'hui plus de 3,16 millions de chômeurs et chômeuses de catégorie A en France. Il faut y rajouter les chômeurs, chômeuses et travailleuses précaires des catégories B et C qui représentent 2,2 millions de personnes, ainsi que les personnes non inscrites à Pôle emploi ou non disponibles qui constituent le halo du chômage, soit au minimum près de 6 millions de personnes. Sachant que la population active, c'est à peu près 3 millions de personnes en France aujourd'hui, ça signifie que le taux de chômage et de précarité est aux alentours de 20%. Alors le plein emploi, vraiment, le second mensonge est celui d'une explosion du nombre d'emplois non pourvus. Je vais raccourcir parce que le temps tourne, mais en gros, ils disent toujours « Ah, regardez, il y a plein d'emplois ». Mais en fait, la vérité, c'est que depuis 2018 à peu près, il y a entre 300 et 400 000 emplois non pourvus en France. Quand on voit qu'on vient de dire qu'il y avait à peu près 20% de 30 millions de personnes, donc 6 millions de personnes qui sont en galère, leurs 300 000 emplois de merde et... En plus, souvent, il y a plein d'études qui montrent que, en vrai, c'est les emplois où on est mal considéré, mal payé. En gros, c'est plus on se rapproche de l'esclavagisme, bizarrement, moins les gens ont envie de faire. Donc, très étonnant, mais il semblerait que ce soit encore trop pour le gouvernement. Bref, la brigade des fauchés vous invite à passer à l'offensive. Vous pouvez retrouver l'intégralité de leur communiqué et tout un tas de chiffres vachement intéressants sur Rébellion et leur communiqué. Vous le retrouverez à plein d'autres endroits, j'imagine. Mais en tout cas, sur Rébellion, vous aurez tout ça. Il est 19h56 et on court après le temps. Merci.
Non, ça va. Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville... Allez vous faire foutre.
C'est Dodoué, Pontodoué,
la radio plus belle. Un urbanisme bienveillant, ce sont aussi des espaces publics agréables, des rues, des places, partagées, apaisées.
La Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe, bébé.
400 émeutiers lancent des bouteilles et des cocktails Molotov sur la police. Des voitures et des bâtiments sont brûlés. Les violences se propagent à d'autres banlieues de la région parisienne.
Ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise.
Où tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux.
Où tu veux.
Où tu veux.
Quand tu veux.
Quand tu veux.
Je dirais que t'as honnêtement 70% du temps. Tu vas faire que regarder s'il y a de la sécu, s'il y a des métros, si l'accès est possible.
Rendez mon aligné, qualifié d'infâme, diffamateur, encore et trop d'honneur qui nous distingue des amateurs.
Vous venez d'entendre le jingle d'une émission qui se déroulera en public demain à 15h à l'annexe de l'ECG et du coup en direct sur les ondes de Radio Canu. Cette émission, ce sera autour du fanzine des urbanismes. Détruire les villes, mais vous n'y pensez pas ? Mais si, on y pense. Évidemment, on ne va pas y aller au bulldozer, pas non plus avec le dos de la cuillère. Pour l'instant, on utilise la poésie pour semer le doute dans les têtes. Et si une nuit étoilée ou une énorme vague avait plus de sens qu'un bus bondé aux heures de pointe ? Viens découvrir un fanzine d'amoureux des villes passionnés par leur destruction, avec une émission publique autour de l'ouvrage « Détruire les villes avec poésie et subversion », republié aux éditions du Monde à l'envers. Et donc tout ça, c'est demain à 15h, en direct de l'annexe de l'ECG. Pendant 2 heures, on discutera de l'ouvrage, du fanzine et de sa réalisation avec son autrice, de la ville comme espace dominé et structuré par le capitalisme, des luttes et des critiques qui émergent pour la détruire ou la détourner. Ce sera aussi l'occasion de donner de la voix pour adapter des morceaux de l'ouvrage à l'antenne et faire entendre certaines de ses pages. L'émission se terminera par un temps d'échange avec le public. Et donc, comme dit, l'émission sera diffusée en direct sur Radio Canu. Et donc, pour assister à l'émission, merci d'arriver à 14h45 sur place. Et bien sûr, pour des questions d'autodéfense sanitaire, le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée de l'événement. Pour le reste de l'agenda, on vous invite à aller sur Rébellion. Je vous dis quand même très rapidement que l'illégalité fête ses 2 ans demain. Il y a un concours de couscous, ça a l'air génial. Oui. Du coup, je vous conseille d'y aller à partir de 15h. Je crois que le concours de couscous, il est un peu plus tard dans la journée. Et bien sûr, la manif pour les professionnels du médico-social et du social mardi à 11h30 devant la métropole.
Et puis moi je voulais vous parler aussi d'un truc qui va avoir lieu le 29 novembre. C'est il y a un collectif qui s'est monté. Ouh là là, attends, il y a une pression à côté de moi. Un collectif qui s'est monté donc sur la Croix-Rouge et qui propose des cafés conférences suivis de débats pour aborder des sujets sociétaux qui impactent notre quotidien. Je vous l'évite. Une sorte de séance d'éducation populaire de quartier pour répondre à un besoin de s'informer différemment, de débattre des idées, de prendre du temps, d'approfondir des thèmes avec des intervenants de terrain. C'est super. Ils organisent leur première une CAF-conf sur le thème du travail. Donc c'est mardi. Et ça se passe où? Ça se passe, est-ce que j'ai noté l'adresse? Ah oui, au Gognol, donc 8 rue de Nuit dans le 4e. Voilà, et tout de suite, c'est notre super rubrique ACAB.
ACAB.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Eh bien, bonjour Lily, on a eu plein d'appels encore ce soir, mais du coup, un des ACAB, c'est « Les associations se censurent, augmentons les budgets ».
Ça peut être aussi « Les assauts contre la répression agiront à Bure ».
Et un dernier appel in extremis avant la rubrique qui nous suggérait que ça voulait dire « Association combative anti-CIGEO ».
Et alors Noise Pollution nous suggère que ce soit les associations et les camarades avec les brigades. Eh ben merci Noise Pollution et bonne émission.
C'est